Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francis, midi à Ouagadougou, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, un ex-candidat à la présidentielle en prison, ont saisi les Nations Unies et veulent saisir d'ici la fin de la semaine la Commission africaine des droits de l'homme pour réclamer la libération de leurs clients détenus arbitrairement, selon eux. Les avocats en question ont par ailleurs annoncé avoir été informés mercredi du renvoi du procès du détenu devant la cour criminelle. Un procès qui devait initialement s'ouvrir fin mars. Le général Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée congolaise, a été incarcéré pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. En République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu dans l'est du pays dénonce l'affairisme des services de sécurité dans cette partie de la RDC où les groupes armés tuent des civils sans protection. Une lettre signée par les églises, les avocats et les ONG a été adressée à ce sujet au président Joseph Kabila. Les détails avec Eddy Isango.
Dans la lettre, la société civile du Nord Kivu révèle qu'au moins 1343 personnes ont été tuées en 2 ans dans les territoires des Beni et des Lubero. Les auteurs de la lettre dénoncent des centaines de cas d'enlèvement, les viols de plusieurs centaines de femmes, la destruction d'écoles et des centres de santé. Dans les grands centres, on assiste impuissamment à l'affairisme des services de sécurité, précise la lettre citant l'Agence nationale des renseignements, ANER, dirigée par un proche du chef de l'État, la police et l'armée. Les églises, les avocats et les ONG interpellent les gouvernements congolais et la communauté internationale à saisir la Cour pénale internationale CPI. La procureure générale de la CPI, Fatouma Bensouda, est arrivée mardi à Kinshasa où elle doit rencontrer des responsables officiels et tenir une conférence de presse.
Au Tchad, des députés de l'opposition ont déposé hier un recours près du Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de la loi sur la nouvelle constitution adoptée lundi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
26 députés de l'opposition sont à l'origine de cette demande d'annulation de la loi portant adoption de la constitution de la 4e République. Elle a été adoptée lundi par 132 voix pour. Seuls 2 députés de l'opposition étaient présents dans l'hémicycle et ont voté contre. Les autres ont boycotté le scrutin pour protester contre l'adoption du projet de révision constitutionnelle par voie parlementaire. L'opposition des organisations de la société civile et l'Église catholique avait demandé qu'il soit adopté par référendum. Le texte est issu des résolutions d'un forum national tenu en mars, mais boycotté par l'opposition et une partie de la société civile. Il renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral. Le chef de l'État a 8 jours à compter de la date d'adoption pour promulguer la nouvelle constitution.
Au Burundi, 27 formations politiques et une coalition indépendante ont commencé la campagne référendaire relative au vote du 17 mai sur l'amendement de la Constitution. Sans suspense, le oui devrait l'emporter. Reportage de Christophe Nkurunziza, correspondant de VOA Afrique à Bujumbura.
Des camionnettes double cabine à vidéo parleur appellent les habitants de la capitale à voter oui et Yon et Kirundi. Sur l'avenue de l'Université du Burundi, séparant les quartiers Biza et Nyakabiga du quartier Roero, au centre-ville de Bujumbura. D'autres voitures se dirigent vers les provinces de Gitega, au centre du Burundi, où les sympathisants du parti présidentiel CNDD-FDD ont lancé leur campagne pour voter oui à l'amendement du projet de l'actuelle constitution. D'autres voitures scandent des slogans pour voter vers le stade de Muremera, la province de Ngozi, au centre du pays, où se dirigent les partisans de la coalition Amizero Warundi, à la tête de laquelle se trouve l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Mais dans les ruelles de la capitale Bujumbura, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Certains habitants de la capitale, comme ces deux jeunes gens qui se sont exprimés en langue nationale, affirment en souriant qu'ils vont voter pour les 8, car ils embrassent les idéaux du président Pierre Nkurunziza.
Nous allons voter oui, car nous avons confiance au président actuel. Oui, nous avons confiance en lui. Il m'est difficile de donner les raisons, mais nous allons voter oui.
Oui, nous allons voter pour le oui.
Cet autre Burundais que nous avons rencontré au quartier Roero, au centre-ville, indique pourquoi il va voter non.
Je vais voter non. il y a l'accord d'Arusha signé en Tanzanie, qui est le garant de la paix, de la sécurité et du développement au Burundi. Les Hutus, les Tutsis et toi, tout le monde trouve sa place. Changer cette constitution pour les intérêts des uns peut amener le pays dans le chaos.
Ces femmes que nous avons trouvées près de la cathédrale Regina Mundi de la zone de Rohiro ont des avis très partagés.
Moi, je suis vraiment très indifférente de la situation du pays actuellement. Ça ne m'intéresse même pas. Ce n'est pas la peine, monsieur. Ce n'est pas la peine, vraiment.
Pour moi, je vais voter oui pour me protéger. Parce qu'il y a la peur ici. Si je vote non, je peux être intimidée. Donc, je peux voter oui pour me protéger, pour rentrer en paix.
Je ne veux pas aller voter. C'est mon choix. J'ai décidé de ne pas aller voter parce que on voit tout ce qui se manigance à propos de ce référendum. Enfin, maintenant, nous voyons ce qui se font. Ça se passe même dans les médias où on impose aux gens de voter le oui ou bien le non. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas se présenter au référendum.
D'autres formations politiques comme le Rassemblement national pour le changement se disent inquiètes car personne ne connaît avec certitude le texte qui sera soumis à l'approbation ou la désapprobation du texte constitutionnel le 17 mai prochain. Les États-Unis sont préoccupés par un référendum constitutionnel qui est interprété comme une réinitialisation du mandat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Gambie, deux généraux de l'ex-président Yahya Jammeh ont plaidé non coupables mercredi devant une cour martiale de Banjul. Ils avaient suivi l'ex-président gambien Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale en janvier 2017, avant de retourner dans leur pays un an plus tard. Ils y ont été inculpés de désertion, Abdourahmane Dia.
Les généraux Ansoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendi, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier, peu après leur retour de Guinée équatoriale. Ils sont poursuivis pour désertion de poste et risquent la prison à perpétuité. Après la lecture des charges pesant contre eux, les deux hommes ont indiqué qu'ils plaidaient non coupables. Lors d'une audience début avril, les avocats de la défense avaient vainement essayé de récuser la cour martiale, estimant que leurs clients ne faisaient plus partie de l'armée puisque leur salaire avait été suspendu après leur départ du pays et que leurs équipements leur avaient été retirés peu après leur retour en Gambie. Le procès avait ensuite été ajourné à deux reprises, le juge exigeant tout d'abord que les deux généraux comparaissent en uniforme, puis afin de permettre à l'État de désigner des avocats commis d'office. Les prochaines audiences sont fixées au 9 et 10 mai. La sécurité de la Gambie est toujours assurée par la force de la CEDEAO.
En Libye, deux autorités se disputent aujourd'hui le pouvoir dans le pays, le GNR, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, qui est reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement parallèle exerçant son pouvoir dans l'Est. Dans l'Est, avec le soutien de l'ANL, l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Le GNA a été ciblé hier par deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique qui ont attaqué le siège de la commission électorale à Tripoli, tuant 12 personnes et faisant 7 blessés. Le régime au pouvoir dans l'Est est accusé de violation des droits humains et son protecteur, le maréchal Haftar, fait l'objet de plusieurs plaintes en justice dans ce domaine dans les pays occidentaux. À preuve, une poursuite judiciaire est engagée en France contre Khalifa Haftar. Il est accusé de torture et de barbarie, selon Rachel Lindon, l'avocate du plaignant. Les détails avec Irénée Herman Umbo.
La plainte a été déposée par Rachel Lindon au nom de son client, un Libyen vivant au Canada. Il veut que la justice française ouvre une enquête sur les opérations de l'armée nationale libyenne pour élucider les conditions dans lesquelles plusieurs membres de sa famille ont été tués alors qu'elle tentait de contrôler la ville de Benghazi. Le présumé coupable est Khalifa Haftar, chef d'une faction armée qui contrôle la partie est de la Libye. La poursuite a été lancée contre lui alors qu'il se trouve en France pour des raisons médicales. Khalifa Haftar a été l'un des hommes clés de l'armée libyenne au temps de Muammar Kadhafi. Son influence règne toujours dans la partie est du pays et s'étend également dans le sud libyen. En octobre dernier, une plainte avait déjà été déposée contre lui aux États-Unis pour crime de guerre par un activiste indépendant.
En Somalie, une infirmière allemande du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a été enlevée mercredi soir par des hommes armés dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, la capitale somalienne. La situation de notre collègue nous pose beaucoup d'inquiétudes, a déclaré aujourd'hui Daniel Omalé, directeur adjoint du CICR pour la Somalie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.